tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Cut Up, série d'émissions autour de William S. Burroughs sur les ondes de Radio Grenouille. Une série d'émissions en partenariat avec Alpha Béville. William S. Burroughs, 1914-1997. William S. Burroughs est né à Saint-Louis, dans le Missouri, en 1914. Est mort à Lawrence, dans le Kansas, le 4 août 1997. Il a vécu à Mexico, à Tanger, à Londres, à Paris. Héroïnomane, il écrivit Junkie et Queer, avant de se rendre célèbre avec Le Festin Nu, publié en 1959. Associé à la Beat Generation, collaborateur ou inspirateur de nombreux artistes, réalisateur et musicien, Anthony Balch dira de lui qu'il fut un animal littéraire aux orientations homosexuelles, très attiré par les armes à feu et le crime, et était tout naturellement incliné à briser toutes les règles. William S. Burroughs se définissant lui-même comme un humble praticien du métier de scribe. Burroughs a été un pourfendeur des systèmes de contrôle de toutes sortes jusqu'à ses ultimes paroles. La tendance actuelle sur cette planète est au contrôle. Faire de tout le monde un criminel pour créer la nécessité d'un état policier international. William S. Burroughs. Bonjour Colette.
Bonjour Emmanuel.
Alors ce désir de William S. Burroughs, pourquoi donc ?
Alors d'abord, comme tu viens de le présenter, on est à l'année du centenaire William Burroughs. Je crois qu'il y a quelques événements en France, mais il y en a un petit peu partout dans le monde. Mais effectivement, j'avais organisé il y a 2-3 ans, en 2011, c'était le centenaire Marshall McLuhan. Quand les auteurs sont étrangers, c'est rare qu'on fasse des hommages. Alors voilà, c'était une façon de revenir un petit peu sur William Burroughs pour ce centenaire. Il y a aussi un événement qui se prépare au Centre international de poésie de Marseille, donc deux événements à Marseille. Voilà, on essaie de se distinguer un petit peu. Et puis, alors j'ai parlé d'hommage, mais il ne s'agit pas d'un sacro-saint hommage, il s'agit plutôt de réinterroger, revoir, relire Burroughs aujourd'hui, essayer de saisir un petit peu ce qu'il peut nous dire, et puis voir, essayer de distinguer un peu quelques influences qu'il peut avoir encore. Donc j'ai invité quelques personnes qui sont des jeunes générations, dont Franck Ancel, F.J. Hossang, et puis j'ai invité aussi le magazine littéraire, puisqu'il y a eu un énorme dossier, un gros dossier William Burroughs, très très intéressant, dans le magazine littéraire du mois d'avril.
Franck Ancel, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on écoute là ?
On écoute des bruits de tir. On écoute une pièce sonore réalisée par Baptiste Toussaint, qui s'inscrit dans une collection qui s'intitule « Le bruit de la conversation », qui a été lancée en 2013 pour un autre centenaire, le centenaire de l'art des bruits. Et ces enregistrements font partie d'une édition vinyle, puisque les 64 exemplaires de l'objet ont été tirés avec plusieurs pistolets, hein, dans la grande tradition de William Burroughs. Et c'est un concept qui repose sur une face texte et une face sonore. Voilà, donc sur cette première édition, Le bruit de la conversation pour le centenaire de l'art des bruits, on est allé tirer des pochettes dont on a enregistré le son pour faire une pièce de cette édition de 4 projets. Voilà.
C'est des combien de millimètres là ?
Alors il y a eu plusieurs tests. Là on est sur du 9 mm, mais il y a eu plusieurs. On est allé dans un vrai stand de tir Et c'était assez drôle parce qu'effectivement, il y avait les policiers qui s'entraînaient à côté. Et sur l'autre face textuelle, il y a des textes qui durent, comme les pièces sonores, 6 minutes 40. En fait, c'est 20 textes de 20 secondes sur cette première édition qui ont été lus par Justine Schaeffer. Et le texte qui parle effectivement des tirs évoque une vingtaine de dates au XXe siècle d'artistes, d'écrivains, de penseurs qui ont utilisé effectivement le tir dans leur création. Et bien évidemment, William Burroughs, très connu pour avoir effectivement tué sa femme au cours d'un jeu qui s'intitulait Guillaume Tell. Jeu très connu, voilà.
She loves the control, Frank Ancel.
Alors c'est aussi de l'édition, parce qu'en fait j'ai une pratique à la fois de créateur et de théoricien qui se veut traverser les frontières, traverser les disciplines, et je ne fais pas que des disques vinyles en collaboration avec le musicien dont on entend la pièce, Baptiste Toussaint. Je fais aussi des néons, et à l'invitation de Colette, je viens présenter She Loves Control, mon second néon à Marseille, puisque j'ai déjà un néon qui est dans l'unité d'habitation Le Corbusier, que j'ai créé non pas pour Marseille 2013, mais pour les 130 ans du Marégraphe, qui est le bâtiment dans lequel le niveau zéro de la mer tout autour des côtes françaises est déterminé. Voilà, donc la question du zéro, on n'est pas très loin de Burroughs non plus, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse à travers des bâtiments. Donc on pourra bientôt, c'est-à-dire à partir du 3 juin jusqu'au 21 juin, dans la salle des machines de la friche de la Belle de Mai, voir ce néon qui s'intitule « She loves control ».
Elle aime le contrôle, Colette ?
Elle aime le contrôle, je n'aime pas le contrôle, mais effectivement, je crois qu'il faut... Peut-être que Franck donne les références de la pièce, puisque j'aime beaucoup le travail de Franck qui agit par référence et qui nous renvoie du moment du temps de T jusqu'à aujourd'hui. Mais on sait que, bon, ça a été cité tout à l'heure, que le terme de contrôle revient régulièrement dans les œuvres de Burroughs, que c'est quelque chose qui est très présent dans son esprit, qu'il voit effectivement un état policier, qu'il voit des frontières, qu'il voit énormément de choses. Et c'est justement dans cette terminologie-là que Gilles Deleuze a forgé son concept de société de contrôle. Voilà, donc encore un effet rebond de William Burroughs. Aujourd'hui, moi je travaille un petit peu avec le philosophe Bernard Stiegler qui parle d'hyper-contrôle, de société de l'hyper-contrôle. Donc on est encore à un autre niveau qui serait un contrôle insidieux, à notre insu, qui passe par les traces numériques, qui passe par les système automatique et qui contrôle aussi tous nos comportements et tous nos gestes.
Alors bien évidemment, She Loves Control, pour les amateurs de contre-culture, William Burroughs, c'est aussi une grande figure pour la musique, la contre-culture des années 60-70, bien évidemment. Il y a un groupe dont le She Loves Control est bien évidemment en relation, c'est She Loves Control Again. Encore une fois, c'est la pièce très connue de Joy Division. Et ce qui m'intéressait comme clin d'œil, c'est d'évoquer le fait que Ian Curtis a découvert qu'il était épileptique en rencontrant une femme qui a fait une crise d'épilepsie devant lui, et à ce moment-là, il a eu l'idée d'écrire cette chanson, She Lost Control. Donc la question du contrôle, elle est aussi en nous. Voilà, c'est un peu comme l'écriture virus chez William Burroughs. Il y a une dialectique dans son travail d'écriture qui pose quelque chose qui va au-delà du fait de dire, voilà, il y a des gens qui seraient dans le contrôle ou dans l'anti-contrôle. Le contrôle, il est partout, on le respire, on l'utilise, et Burroughs s'est posé la question de comment effectivement apprendre à vivre. Il y a une certaine forme d'écologie là-dessus. Il n'avait pas peur de se confronter avec les catastrophes. Alors il y a aussi un clin d'œil avec une autre catastrophe, c'est la relation avec le chiffre 23. William Burroughs a beaucoup utilisé ce chiffre 23 qui est un chiffre magique. Et She Loves Control, c'est aussi au départ une proposition, une édition de 23 exemplaires que je propose aux fonds régionaux d'art contemporain qui sont au nombre de 23 en France. Voilà. Et c'est aussi la raison pour laquelle, bien évidemment, le néon est de trois couleurs. She en bleu, love en blanc et contrôle bien évidemment en rouge. Donc on peut voir différemment le contrôle. Est-il rouge ? Est-ce que c'est un signal ? Est-ce que c'est un signe ? On peut se poser effectivement toutes ces questions-là. En tous les cas, c'est une pièce faite pour réfléchir et aussi pour, comme Colette le disait, réfléchir avec son corps, réfléchir avec sa tête. C'est une pièce un petit peu globale. Voilà.
Elle habitera l'espace de la nouvelle salle des machines. C'est cela, Colette?
Oui, c'est ça, jusqu'au 21 juin. Je crois qu'il y a aussi les disques de Franck Ancel qui seront en dépôt, et puis la rencontre avec Hervé Aubron du magazine littéraire le 7 juin.
Justement, sur les disques, le bruit de la conversation.
Bien sûr, Sigma Bordeaux, tout ça est assez loin pour moi. Je m'en souviens vaguement, mais je me souviens d'avoir rencontré des gens à Bordeaux à ce moment-là. Mais ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu faire, je ne m'en souviens pas du tout.
Sigmar mythologie, querelles éthiques et d'entrée d'union des équipes, le moins peu le plus de publicidation politique, comicité artistique et nunca bibendum intégré douce musicale, les vents et marées brutales, le chimie imitable, la fausse mosée, le spectacle. Société du miracle. Ah oui.
Les gens étaient furieux, ou les gens étaient transportés de joie. Entre l'insurrection et la fête, il y a des glissements. Et Sigma, c'était une fête de l'invention, de l'imagination, de l'esprit. Vent debout face à une ville endormie, une belle endormie.
Qu'est-ce qu'on écoute en ce moment, Franck ?
Alors, on écoute la phase texte du deuxième opus du bruit de la conversation, qui s'appelle Sigma. Et en fait, Sigma, c'est un festival qui a eu lieu à Bordeaux de 1965 à 96, auquel j'ai assisté, qui m'a beaucoup formé, qui a invité à peu près tous les grands artistes depuis les années 60. Mais la particularité de Sigma, c'est un festival bordelais, effectivement, mais le premier épisode en 65, a été l'objet d'une exposition par quelqu'un qui avait fait un festival qui était un petit peu l'original de ce festival à Bordeaux, qui a eu lieu à Marseille sur le toit de l'unité d'habitation en 1956, le festival d'art d'avant-garde. Et donc en fait mon deuxième opus disque sur la question du festival bordelais Sigma, c'est aussi un rapport avec un autre festival qui avait eu lieu à Marseille et qui pose la question de la culture. Donc phase textuelle, effectivement 20 participants pendant 20 secondes avec des artistes, des penseurs, et l'autre côté, on a une pièce initiale de Pierre Henry, qui fait 6 minutes 40, voilà, qui est une pièce qui s'intitule Lévitation, et qui pose aussi indirectement un rapport avec Burroughs, parce que Burroughs s'intéressait également à les états modifiés de conscience, il s'intéressait également, bien évidemment, à la question de la télépathie, voilà, et pourquoi pas aussi de la lévitation, et c'est aussi un des aspects qui m'intéresse chez Burroughs. Peu de personnes savent, mais il a été très proche d'un moine bouddhiste, qui s'appelle Chöngyam Trungpa, et il a été invité deux fois au Naropa Institute en 75 et en 85, où il a pu donner des cours et participer à des séances de méditation. Donc le contrôle, ça peut être aussi une forme de méditation, et parfois la méditation ne rien faire, c'est-à-dire contrôler de ne rien faire ou laisser faire. Voilà, c'est toutes ces questions qui créent une nouvelle dynamique et à mon avis qui sont pertinentes pour aujourd'hui. Peut-être.
Le bruit de la conversation avec Yann Fabre, Michel Ragon, il y a aussi Angelin Presch-Locage, il y a Régine Chopineau, il y a Jean-Pierre Bouxou, hein.
Jean-Pierre Bouxou, oui, qui est un spécialiste de cinéma plutôt, on va dire, plutôt rouge, pour faire, voilà, plutôt cinéma rouge. Et il y a des gens comme Jean Dupuis, qui habite dans le sud de la France, et toutes ces personnes-là ont participé, donc c'est de 20 à 80 ans. Avec, ils ont joué le jeu de ce petit collage sonore, hein. Donc c'est pas du cut-up, mais c'est aussi, ça participe aussi d'une réflexion de ce que c'est qu'à un moment donné de se contrôler, de faire 6 minutes 40, voilà, alors 6 minutes 40 il y a des raisons, hein. C'est 20 fois 20, mais le chiffre 64 c'est aussi le chiffre des 64 hexagrammes dans le livre du Yiking, et l'art de la combinatoire c'est aussi des choses qui me passionnent, et je pense que c'est un petit peu ce qu'a inventé Burroughs. Et puis puisqu'on est à Marseille aussi, il faut rappeler, mais Colette pourrait le dire aussi, on parlait d'état modifié de conscience, mais c'est en venant à Marseille en bus que la Dream Machine a été découverte. Voilà. Et donc, Marseille, William Burroughs, 100 ans, ça fait sens, effectivement.
On écoute un extrait de la pièce inédite de Pierre Henry.
Thank you.
Alors, ce qu'on entend, c'est une pièce de Pierre-Henri qui s'appelle Lévitation, et on est dans une ambiance, effectivement, qui serait très proche de ce que pouvait peut-être écouter William Burroughs avec Boeing Enzing au Maroc, avec certaines musiques, effectivement, qui amènent à des états de transe. Donc là, c'est une transe électronique qui nous permet peut-être de léviter.
Franck Hansel, ce sont de véritables objets, hein, ces vinyles. Hein.
Ah bah c'est des objets, c'est des livres d'artistes, non, c'est des vinyles d'artistes bien évidemment, mais nous on est pour une certaine démocratie, une certaine... Voilà, il faut des prix des collectionneurs à tout le monde. Donc le bruit de la conversation avec la pièce inédite de Pierre-Henri, on a une illustration faite par François Morellet qui fait aussi des néons, très belle pièce d'art cinétique des années 60, et c'est un objet qui vaut 10 euros simplement, voilà, donc c'est un objet pour tous les collectionneurs. Il n'y aura pas de réédition, c'est 333 exemplaires, et le premier, il n'y a que 64 exemplaires, et c'est 32 euros, voilà.
Donc, on rappelle le nom du premier.
Le premier s'appelle le bruit de la conversation 00, le deuxième s'appelle le bruit de la conversation Sigma avec la lettre grecque, et il y en a un en préparation qui sera peut-être lié avec Marseille bien évidemment, voilà, et peut-être que le marégraphe est impliqué là-dedans. En tous les cas, ça sera l'occasion de revenir vous voir.
Et justement sur les séries, il y a d'autres séries, tu travailles comme ça d'autres séries autour du cinéma. Il y avait une série avec par exemple Maïkowski.
Oui, il y a une édition de coffret Plexi qui s'intitule, donc il y a trois projets, deux de réaliser, Vladimir Maïkowski Remix, Yves Klein Remix, et le troisième, ça sera Joseph Beuys Remix. Donc trois personnes, les années 20, les années 50, et puis les années 80. C'est trois coffrets bleus, enfin, le Yves Klein, bien évidemment, il est bleu, il est IKB, le Maïkowski, il est pas bleu, il est rouge, et puis le Joseph Beuys sera vert, bien évidemment. Donc là-dessus, on peut voir de la vidéo, mais c'est à la fois de la poésie visuelle, c'est aussi des nouvelles technologies parce qu'on a utilisé des machines pour faire ça. Et le Maïkowski Remix, ce qui est très drôle, c'est que c'est une bande vraiment argentique tournée par Maïkowski en 1918, où on le voit danser avec Lili Brick. Alors c'est aussi de la chorégraphie. Donc Lili Brick, c'est une de ses maîtresses, une grande histoire d'amour. Et je me suis amusé à faire une accumulation rouge sur son épitaphe. Et la bande-son a été faite par Luc Ferrari et Elisabeth Ruinasca, qui est une grande tafsiniste. Et donc c'est une musique extraordinaire, répétitive, électronique. Et le clin d'œil, ben, bien évidemment, vous l'aurez compris, Maïkowski, Lili Brick, Luc Ferrari, Elisabeth Ruinasca. Et l'intitulé de cette pièce sonore s'intitule « Programme commun pour bande magnétique et clavecin dans les années 70 ». C'est effectivement toute une politique.
Le cinéma poésie proposé par Franck Hansel. On peut les trouver où ces films.
Je parlais de démocratie, on peut les trouver sur Vimeo, voilà, tout simplement. Donc si vous voulez être collectionneur, vous pouvez, fétichiste, j'accepte l'échec, bien évidemment, mais si vous voulez simplement aller voir, ils sont disponibles sur Vimeo, vous faites Franck Hansel, Vladimir Maïkowski Remix. Ils sont projetés parfois dans les musées. Le Maïkowski a été projeté au musée de la Reina Sofia, à Madrid, dans le cadre d'une très grande exposition qui était un hommage à un autre festival un peu méconnu, qui était un festival à Pamploune. En 72, il y a eu une très grande manifestation avec beaucoup d'activistes de Fluxus qui sont intervenus, pourtant en 72, sous un régime d'une dictature. Et mon film a été projeté dans le cadre de cette exposition rétrospective, puisque Luc Ferrari avait participé en 72. Voilà.
Mais c'est pareil, c'est en édition limitée. Hein.
C'est des coffrets qui reposent sur une édition de 27 exemplaires, et ça c'est un clin d'œil à la littérature. On sort de William Burroughs, mais on est aussi dans les sociétés secrètes. On est en Méditerranée avec Enrique Villamata, qui est un écrivain de Barcelone que j'aime beaucoup, et dont le premier opus traduit en français s'appelle Traité d'abrégé de littérature portative. J'en ai fait une lecture il y a trois semaines sur un site à la frontière franco-espagnole, là où Walter Benjamin s'est suicidé, ou là où on l'a poussé au suicide. J'ai fait une lecture d'une Enrique Villamata, extrait de ce livre, dans le passage construit par Danny Caravan, passage dans lequel j'ai lu un extrait qui évoque la présence de Marcel Duchamp et Walter Benjamin à Portbou, dans cette société qui a la particularité, et c'est là où on a l'explication du 27, tout fonctionne autour du 27. Voilà. Ce sont des gens qui se rencontrent au numéro 27 de telle rue. Et puis les 27, bien évidemment, dans la contre-culture, c'est un chiffre, c'est pour ceux qui sont encore en vie, qui parlera à tout le monde.
Que des clins d'œil avec Franck Hansel. Les écrivains sérieux sont ceux qui ont dépassé l'idée de l'art et considèrent l'écriture comme une arme avec des revolvers braqués. Voici venu le temps des assassins. Cut Up, série d'émissions autour de William S. Burroughs, Franck.
Et bien évidemment, puisqu'on est dans l'arme visuelle, il y a également des badges qui s'appellent She Loves Control et qui seront disponibles pour petite somme, je crois 1 euro, ou vraiment de manière symbolique. Si vous voulez porter un néon à la boutonnière bleu, blanc, rouge, c'est l'occasion.
Une série d'émissions autour de William Burroughs avec F.J. Osang. Sur les ondes de l'Interzone, playlist William Burroughs comme découpé avec une paire de ciseaux, la petite boutique de curiosité et Zinova Mix. William S. Burroughs, cycle, proposé par Alpha Béville, Colette.
Alors ce cycle a lieu jusqu'au 11 juin avec effectivement quelques temps forts événements, mais donc la pièce de Franck jusqu'au 21 juin, des programmes radiophoniques, des créations, et je remercie fortement Radio Grenouille de s'être impliqué dans cette manifestation. Et puis certainement une suite à l'automne en deux parties, un petit peu à Marseille, un petit peu à Aix-en-Provence, que j'ai appelé la révolution selon William S. Burroughs, et qui va être une série de rencontres, tables rondes, de conférences à partir à la fois du texte et de la notion et de cette époque de l'électronique, ce texte de William Burroughs qui s'appelle « La révolution électronique » et qui consiste en justement détourner le contrôle et détourner par les virus les discours officiels, les discours politiques. Voilà, donc encore quelque chose d'un petit peu d'actualité qu'on traitera à l'automne. Merci.
Plus d'informations de site internet www.alphabéville.org, www.radiogrenouille.com.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale. RadioGrenouille.com.